Vous écoutez France Culture.
Ça rime à quoi ? Ça rime à quoi en compagnie d'Anna Gavalda ? Ma mère est morte l'année de mes 17 ans et Arthur Rimbaud me saoule avec ses bocs et sa limonade. On peut devenir très sérieux à cet âge de merde, le tout c'est de ne pas le montrer. On continue la route, les poches crevées, on achète des tas de conneries pour compenser et ce qu'on a de plus précieux, forcément, on le paume. C'est Mathilde qui nous confie cela, l'anti-héroïne cabossée qui ouvre votre dernier livre, Anna Gavalda. Dernier livre au titre épatant, bien que tout en minuscule, sur la couverture de votre éditeur Le Dilettante, « La vie en mieux », ça s'appelle. La poésie que vous glissez en douce un peu partout dans vos récits à succès, c'est souvent ce qu'il y a de plus précieux.
Ah, c'est gentil de me dire ça. Vous êtes la première, c'est vrai. Voilà 15 ans que j'écris, enfin que je publie. Et vous êtes la première, d'ailleurs c'est pour ça que je suis là en face de vous, parce que je ne vais pas souvent dans les émissions de radio. Vous êtes la première à me le dire. Or, il me semble que depuis ma toute première nouvelle, dans mon tout premier livre, la poésie affleure à chaque ligne. Voilà. Sauf que on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, donc je la passe en contrebande. Parce que la poésie, ça fait un peu peur. Donc moi, je la mets sans cesse dans la bouche de mes personnages. Mais à chaque fois, ils la malaxent un peu pour la rendre... Ils en font de la poésie prosaïque, quoi. Mais elle est là. Moi, je trouve qu'elle est là. Moi, je...
Vous la planquez ? Vous la cachez ?
Quelquefois, elle est toute belle. Hein. Dans La Consolante, il y a... je me semble qu'il y a un passage de T.S. Eliot. Enfin, quelquefois, elle est
de
même...
Westland.
Quelquefois, elle est absolument bien citée, avec les guillemets ou l'italique. Tout bien comme c'est marqué dans les règles de typologie. Et quelquefois non, quelquefois voilà, c'est Mathilde qui dit on peut devenir très sérieux à cet âge de merde, ou n'importe quel autre personnage. Enfin, je sais que j'ai vraiment des poètes qui sont là pratiquement tout le temps, quoi. Victor Hugo, il est pratiquement là dans chaque texte, je pense.
À commencer par le dernier, La vie en mieux. J'emmerde la morale et les moralisateurs, je les conchis. Et plus encore quand le feu sacré qui les anime, eux, leurs homélies, leurs semonces et leurs nobles courroux, se chiffonnent en billets de banque. Bon... voilà, une belle phrase superbe et généreuse avec tout ce qu'il fallait de Victor Hugo dans les plis du drapé. Mais elle sonnait aussi creux que ma pauvre tête. Les 10 000 euros étaient dans la nature et je ne croyais plus au Père Noël depuis longtemps. C'est toujours Mathilde qui joue les lionnes, mais le grand Victor à la rescousse, c'est bien vous, Anna Gavalda.
Voilà, et puis ça c'est Mathilde, et puis après dans l'autre histoire, il y a Yann, et à un moment donné, il parle d'une cuite, d'une fin de cuite, et il dit j'étais seule, voûtée, perdue dans ses pensées, voilà. Et pareil, la petite Billy dont on m'a reproché tellement la grossièreté, quand son histoire commence, elle fait un pastiche sauce piquante de Demain dès l'aube. Ça m'a toujours étonnée qu'on me parle tant de la grossièreté de cette jeune fille, alors que moi je la trouve au contraire très aristocrate, très noble et très poétique dans ses pensées et surtout dans sa façon de vivre. Et justement, je pense que la grosse erreur de ce livre, c'est qu'à un moment donné, pour pasticher Victor Hugo, elle dit, voilà, donc elle est très très agacée et elle dit... Ce que j'avais de mieux à faire pour le moment, c'était de dormir pour prendre des forces, et demain, dès l'aube, à l'heure où me regaverait cette merde de campagne, je partirai, j'irai par cette saloperie de forêt, j'irai par cette saloperie de montagne, et je déposerai dans cette combe un putain d'hélico en fleurs. Et moi, si je devais critiquer mon livre, je dirais, c'est pas possible qu'une fille comme elle connaisse le mot combe. Voilà, pour moi, elle est là l'erreur, elle est là le...
Et ça continue encore.
Voilà, c'était dit, j'allais bouger mes fesses, et foi de poétesse, ça allait giter dans les causes.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a l'idée de sauver son compagnon qui est tombé dans une combe.
Voilà, et elles sont, voilà, elles, d'ailleurs, elle ne connaît même pas le mot, donc elle dit un déboulis, parce qu'elle ne connaît pas le mot éboulis, et elle comprend bien qu'il débaroule, comme les éléphants d'Hannibal. Et voilà, et ça allait giter dans les causes. Moi, je trouve ça très poétique. Je trouve que cette petite Billy est très, très poétique. Donc, quand, c'est vrai que j'étais... C'est vrai, je lis pas les critiques ou ça, mais elle, forcément, elles me reviennent aux oreilles. Et quand on m'a tellement reproché la grossièreté de cette jeune fille, j'ai pas du coup tout compris, parce que moi, j'ai eu l'impression d'écrire un long poème. Donc, je suis tombée de haut.
Vous ne vous privez jamais du plaisir de placer un alexandrin clandestin, lui aussi orphelin, par exemple, comme Mathilde, dans La vie en mieux. C'est au sortir d'un bistrot parisien près de l'Arc de Triomphe, et ça dit que la vie est chère près du soldat inconnu. Et c'est dès la fin du premier feuillet. Et ça s'arrête derrière. Alors, l'entend qui voudra, mais quand même, ça sonne.
Tout le monde l'entend. Même si on ne l'entend pas consciemment, je crois que nous, Français, élevés, à Racine et Corneille, etc., en cours élémentaire, on les entend tous. Et d'ailleurs, enfin, moi, je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à la force de l'alexandrin. Je trouve ça magnifique, l'alexandrin. J'ai commencé beaucoup plus tôt, puisque je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part en été 1.
Le titre, le tout premier titre à succès.
Voilà, le tout premier titre, on m'a dit, voilà, au début on m'a dit ça marchera jamais parce qu'il est impossible à retenir, et longtemps après on m'a dit ça a marché parce que c'était un alexandrin. Et évidemment, ce qui est mignon, je le dis avec toute l'honnêteté dont je suis capable, j'étais pas consciente du tout que c'était un alexandrin, je trouvais que c'était une belle phrase. Mais par contre, là où j'ai eu conscience vraiment de la force, de la gravité et de l'impact d'un alexandrin parfait dans l'oreille du lecteur français, c'est quand j'ai traduit Stoner, donc un roman américain.
De John Williams.
Voilà, de John Williams, et tout à la fin, le personnage principal, donc le fameux Stoner, meurt, et c'était absolument impossible de traduire... de l'anglais au français mot à mot, parce que c'était très lourd en français. Et donc, mais par contre, l'image était la suivante. Cet homme lit et meurt en lisant. Et le livre lui échappe des mains. Et on comprend que parce que le livre lui échappe des mains, les mains n'ont plus la force de le tenir, et donc il n'est plus là. Et donc, ça vraiment, j'ai... Pour le coup, enfin, il m'est arrivé tout cuit, mais c'était une révélation, et j'étais très contente, parce que c'était vraiment ça que je cherchais. Le livre se clôt ainsi, et son livre en tombant s'en trouva refermé. Et je trouve que cette scansion est très belle, quoi. Et son livre en tombant s'en trouva refermé.
Qu'ils vivent. Dans mon pays, les tendres preuves du printemps et les oiseaux mal habillés sont préférés aux buts lointains. La vérité attend l'aurore à côté d'une bougie, le verre de fenêtre est négligé, qu'importe à l'attentif. Dans mon pays, on ne questionne pas un homme ému. Il n'y a pas d'ombre maligne sur la barque chavirée. Bonjour à peine est inconnu dans mon pays. On n'emprunte que ce qui peut se rendre augmenté. Il y a des feuilles, beaucoup de feuilles sur les arbres de mon pays. Les branches sont libres de n'avoir pas de fruits. On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur. Dans mon pays, on remercie.
C'était René Char, avec sa voix rocailleuse, qui acceptait de lire quelques-uns de ses poèmes. C'était en mars 1965. Qu'ils vivent, j'ai lu quelque part Anna Gavalda, que ce serait le premier poème que vous auriez aimé à l'école. Je ne sais pas si c'est vrai.
C'est pas le premier, mais c'est celui, c'en est un que je connais encore par cœur. Souvent, c'est un vers qui change notre vie, quoi. Et là, je trouve que on ne questionne pas un homme ému, je trouve ça très beau. Et c'est la force des très grands poèmes, c'est qu'on pourrait faire un titre de... D'ailleurs, François Sagan l'a très bien fait. On pourrait faire un titre de roman par ligne de vers. Où il n'y a pas d'ombre maligne sur la barque chavirée. Je trouve que c'est magnifique, quoi. Ou même dans mon pays, on remercie... enfin, voilà, je trouve ça magnifique. Quelle belle campagne électorale cela ferait.
Vous aimez bien marier les gros mots à ceux du poème. Vous dites même, côté poésie, je bastonne ma race, tout en vous excusant un petit peu et en même temps en vous amusant de ce genre de provocation. Mais Anna Gavalda, on peut tout aussi bien à vous lire pleurer tout Paris ou encore apostropher les étoiles. Vous mariez l'un et l'autre comme pour vous excuser d'être poétique, tout en faisant que ça existe et dans le monde d'aujourd'hui, avec le parler d'aujourd'hui.
Et d'ailleurs, ce poème de René Char le dit bien. J'aime ce que je préfère, et c'est pour ça que j'aime tellement Molière et tellement La Fontaine, par exemple, et tellement Shakespeare. Ce que j'aime vraiment, ou Léonard de Vinci, ce sont les immenses génies qui n'ont rien perdu du quotidien, qui arrivent à toujours dire les choses avec des mots très simples, voilà, avec les mots de tout le monde. parler comme personne ou dire comme personne. Et vous voyez, avant de venir, justement, c'était mignon parce que j'ai retrouvé tous mes... Enfin, j'ai cherché tous les poèmes que j'ai notés depuis que je suis toute petite. Et donc, j'ai mon petit carnet avec mon écriture de petite fille de quand j'étais petite. Et alors, je m'en sais très gré parce que je suis toujours d'accord avec la petite fille que j'étais, ou alors la petite fille que j'étais est toujours d'accord avec la vieille fille que je suis devenue. Mais j'aimais beaucoup Boris Vian et Jacques Prévert. Et après, j'ai vu en grandissant que j'aimais beaucoup Aragon et Paul Éluard. Enfin, il n'y a rien, vraiment rien d'original dans tout ça, mais c'est quand même des gens qui ont su dire les choses avec des mots très simples, quoi. Et je suis émerveillée par ça. Je suis émerveillée. Voilà. Et Victor Hugo, pareil. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus chic d'aimer des gens plus ornementés ou ornementeux ou ornementaux, mais vraiment Prévert, quoi. Moi, je trouve ça magnifique. Et justement là, puisque je suis devant mon carnet, j'ai toujours des carnets évidemment, je note plein de trucs. Et là, je tombe justement sur un poème. Je savais pas, mais je le vois à l'instant, donc je vous le dis. Un poème de Fernando Pessoa que je trouve très beau. Quand viendra le printemps, si je suis déjà mort, les fleurs fleuriront de la même manière et les arbres n'en seront pas moins verts qu'au printemps dernier. La réalité n'a pas besoin de moi et je sens une joie énorme à la pensée que ma mort n'a aucune importance.
Pourquoi vous aviez noté ce poème-là de Pessoa dans votre carnet, Anna Gavalda ?
Parce que là, en l'occurrence, le fond est aussi beau que la forme et que pour une fois, je peux me dire « Ok, il est traduit, donc ce n'est pas lui », parce que je ne crois pas du tout à la traduction. Mais là, Fernando Pessoa, c'est très beau parce qu'en fait, c'est encore là, pour le coup, c'est encore même plus que de la prose ou de la poésie, c'est même une philosophie.
En fait, il suffit de vous lire, Anna Gavalda, pour sentir votre attachement au poète. Par exemple, page 10... De « Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part », ce fameux alexandrin. Nous sommes boulevard Saint-Germain, un homme et une femme se croisent. En passant mon chemin, je continue de sourire, je pense à la passante de Baudelaire. Déjà avec Sagan tout à l'heure, vous aurez compris que j'ai ce qu'on appelle des références littéraires. Je marche moins vite car j'essaie de me souvenir. Longue, mince, en grand deuil. Après, je ne sais plus. Après... Une femme passa d'une main fastueuse sous le vent balançant le feston et l'ourlet. Et à la fin, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais, à chaque fois ça m'achève. Et la belle de ne pas se retourner parce que ça gâcherait le poème.
Bon, évidemment, ce sont des écrits de jeunesse. Aujourd'hui, j'ai toujours du mal à me réentendre, mais ô toi... Que j'eusse aimé, ô toi qui le savais, avouez que c'est vraiment définitif et que ça nous arrive encore tous les jours quand on croise un regard voilà, dans la rue. Et voilà, moi j'y pense très souvent. Je ne dis pas que je suis regardée beaucoup, mais je sais pas, on a tous comme ça des petits moments suspendus où on se regarde et on se croise vite. Et c'est au toi que j'eusse aimé, au toi qui le savais. C'est très, 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 très beau. C'est très beau. Baudelaire, c'est beau.
Avec 34 kilos d'espoir. 34 kilos d'espoir, c'est censé être pour les enfants, mais moi, je l'ai lu et j'ai adoré. Il y a la lettre du petit Grégoire qui, pour la première fois, supplie qu'on l'accepte dans une école et qui finit ainsi. Je ne suis pas très gros, je pèse 35 kilos d'espoir. Et on peut penser à Blaise Cendrars, un peu plus balèze, qui a écrit « Je sors de la pharmacie, je pèse mes 80 kilos, je t'aime. »
C'est lié.
Vous l'aviez à l'oreille.
Oui, je l'avais à l'oreille. Il n'y a que vous pour remarquer ça. Mais c'est vrai, c'est évident. Enfin, voilà, Blaise Cendrars aussi, comme ce dont je parlais tout à l'heure. Je trouve ça très beau de mélanger, justement, cette chose très prosaïque, le poids qu'on fait sur une balance et les kilos d'amour que ça fait, ou d'espoir, ou de désespoir. Je trouve ça magnifique de donner à des mots aussi terre à terre tant d'hélium. Je trouve ça très beau.
Pas bien sur le dos, pas bien sur le ventre, pas bien dans son flot, pas bien dans son antre. L'azur, c'est trop dur, le lit, c'est trop tendre. Debout, trop futur et couché, trop cendre. Le jour, mal au cœur, la nuit, mal au songe. Le fer du traqueur, le poids des éponges. Lundi, vendredi, pas bien ni dimanche, pas bien ni jadis, et ni lieu ni branche. Si bien près de toi, néant imbécile, on aime parfois de mourir tranquille. C'est de Norge.
C'est de Norge et c'est dit par Miu Miu. Pas bien, Jeanne Moreau l'a chanté, mais c'est vous, Anna Gavalda, qui avez voulu l'entendre de la voix de Miu Miu. C'était dit dans Un bon plaisir de Gérard Oberlé, ami des poètes, qui a publié Norge, entre autres, et Lucienne Desnoux aussi. C'était une émission de 1998 par Sonia Kronlund. Pourquoi Norge? Et pourquoi Miu Miu?
Alors, il y a beaucoup de choses. Norge, donc je le découvrais là, je me souviens très bien, en décollant du papier peint, parce que c'était des rediffs l'été. Là encore, je ne connaissais pas du tout, donc c'était une découverte. Donc après, j'ai lu tout Norge, parce que là encore, des mots que nous pourrions employer, vous et moi, en allant faire notre marché avec nos cabas, et qui, assemblés ainsi, donnent quelque chose de divin. Et ensuite, vous voyez, je ne savais pas que c'était Sonia Kronlund qui avait fait cette émission-là. Mais voilà, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de plus poétique dans ma vie, et mon seul belvédère sur le monde, c'est France Culture, puisque je n'ai pas la télévision, que je ne lis jamais les journaux, ni les magazines, ni la presse, ni rien, que je n'utilise pas Internet. Et que voilà, je vis vraiment, on pourrait dire, dans une bulle... vraiment enfin, en dissidence par rapport à l'actualité. Or, on dit souvent que mes livres reflètent bien la société dans laquelle je vis. Donc, quel est ce paradoxe et d'où vient-il? Moi, je pense que justement parce que je suis si loin de toute cette écume, quand je rencontre les gens, je suis obligée d'aller avec eux dans le nu de leur âme, puisque je ne peux pas parler avec eux des séries, etc., puisque je ne les connais pas. Et je pense que les deux plus beaux belvédères que j'ai sur le monde et qui font de moi cette personne si sensible à la poésie, je les dois à France Culture, donc voilà, vous qui m'écoutez, vous êtes mes frères et sœurs, vous êtes comme moi, vous connaissez la grille de France Culture par cœur, et vous ne pourriez pas vivre sans, et vous êtes aussi accro que moi, et je pense que comme moi, vous pourriez descendre dans la rue demain si on touchait un cheveu de notre France Culture chérie. Mais vraiment, il y a deux émissions qui me rendent plus belle, quoi. C'est évident, c'est Les Pieds sur Terre de Sonia Kronlund, et il y a une autre émission qui aussi me fait un effet foudroyant, c'est À voix nue, déjà rien que le titre, je trouve ça très beau, qui est de 20h à 20h30 le soir. Et c'est toujours pour moi, ça me laisse songeuse parce que c'est une émission qui est à l'heure du JT, du journal télévisé. Et donc, à la même heure où tous les gens prennent des nouvelles du monde et des nouvelles du monde qui souvent les effritent, les émiettent, tous ces gens-là, parce que ce monde est dur, il ferait mieux d'écouter à voix nue, parce que quand on écoute à voix nue, on entend justement des acteurs de ce monde qui ont fait des choses magnifiques et qui racontent ce qu'ils ont fait pour que ce monde soit meilleur dans tous les domaines. Et ça donne de la force, quoi.
On supprimera la foi au nom de la lumière, puis on supprimera la lumière. On supprimera l'âme au nom de la raison, puis on supprimera la raison. On supprimera la charité au nom de la justice, puis on supprimera la justice. On supprimera l'amour au nom de la fraternité, puis on supprimera la fraternité. On supprimera l'esprit de vérité au nom de l'esprit critique, puis on supprimera l'esprit critique. On supprimera le sens du mot au nom du sens des mots, puis on supprimera le sens des mots. On supprimera le sublime au nom de l'art, puis on supprimera l'art. On supprimera les écrits au nom des commentaires, puis on supprimera les commentaires. On supprimera le saint au nom du génie, puis on supprimera le génie, on supprimera le prophète au nom du poète, puis on supprimera le poète, on supprimera l'esprit au nom de la matière, puis on supprimera la matière, au nom de rien, on supprimera l'homme, on supprimera le nom de l'homme, il n'y aura plus de nom, nous y sommes.
C'est le programme en quelques siècles d'Armand Robin, dit par Michel Piccoli. Parce que je n'en suis pas revenue, Anna Gavalda, de découvrir que dans L'échappée belle, qui est un petit récit, un petit roman sur une virée entre frères et sœurs pour cause de mariage, vous ayez cité la lettre d'Armand Robin à la Gestapo. Comme ça, entre Michael Jackson
ça,
et
voilà,
je ne sais plus qui.
Et au début du livre aussi, je cite André Gortz comme ça, dans Lettre à D, très 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 belle lettre, où il dit à sa femme de 80 ans, tu as 80 ans, tu as rapetissé, tu pèses 40 kilos, et tu n'as jamais été aussi belle et désirable, ce que je trouve magnifique.
C'était chez Galilée.
Ah, et cette lettre à la Gestapo est absolument magnifique. Mais voilà, j'ai attendu voilà 15 ans ou même un peu plus pour arriver là à cette table et dire ça, enfin entendre ça et quel bonheur pour moi, mais quelle source d'apaisement d'être là en face de vous, parce que tout ça c'est dans mes livres depuis si longtemps, mais personne ne le dit jamais, personne ne le relève jamais. J'ai des mauvaises relations avec les médias, avec les journalistes, tout ça. Je veux plus, j'ai pas envie et tout. Mais c'est normal, c'est parce que moi je mets tellement de choses si belles dans mes livres et on ne parle que d'argent, que de tirage, que de best-seller, de combien je gagne. De... Alors que dans mes livres, il y a tellement d'autres choses. Il y a cette putain de lettre là, que enfin vous remontez à la surface, que vous exhumez. En bibliophilie, quand on laisse dans les livres qu'elle des choses un peu des envois ou des bandeaux d'époque ou des publicités de l'époque, etc. Mon éditeur qui édite un catalogue de bibliophilie, il dit on truffe, il faut c'est truffer le terme, c'est truffer l'exemplaire. Bon, moi je le dis très humblement, vraiment à mon petit niveau, j'ai vraiment l'impression de truffer mes textes. Donc, c'est une lettre qu'un homme envoie à une femme quelques mois ou semaines après l'avoir quittée. Et il lui dit « Tes paupières closes, lorsque tu t'abandonnais dans mes bras, Mathilde ressemblait à l'intérieur des coques de litchis. Le même pailleté iridescent, le même rose inattendu et poignant. Les mignons lobes de tes oreilles étaient comme deux crêtes de chapon bien gras. Minuscule galet de porcelaine, amolli, attendri, fondant d'avoir mijoté si longtemps dans un jus de salive par tes baisers sans cesse écumés. Et leur méandre de cartilage, une agacerie, des beignets de carême, une fricassée de têtes d'oiseaux. La base de tes cheveux, cette odeur, là, dans ta nuque, juste au-dessus de ce delta, de cette brèche secrète et duveteuse, de cet entonnoir à caresse, avait l'amertume piquante de l'ami véritable des pains au levain. Et tes ongles, pour qui les avait longtemps sucés, étaient autant d'amandes mondées un peu trop tôt avant la fin de l'été. Du creux de tes salières perlait un sucre vinaigré qui piquait la langue, et du bombé de ton épaule venait sa consolation. Le frais, le grainé fin, la chair fondante d'un cul de poire, d'une beurrée d'Anjou têtée dans la pénombre du cellier. À la commissure de tes lèvres, ces minuscules bulles de salive, quand tu riais aux éclats, crépitaient en larmes de brute rosée, et le bout de ta langue, mon adoré, avait le grenu, le grenat, le rêche pâle et délicat des fraises des bois. Comme elle, adorable sainte Nitouche, cachée, secrète, farouche et éperdument sucrée. La pointe de tes seins, deux févettes de Provence, les premières, celles que l'on ramasse en février et qui se méritent car il faut les éplucher à cru, tandis que leur galbe, sous ma main, avait le moelleux ambré, lisse, gai et parfumé des beurres de printemps. Les vallons qui menaient à ton nombril, pour peu que l'on ait su te moitir d'aise, rappelaient cette sorte d'acidité sucrée des couetches cueillies dans les vergers oubliés et réveillaient, heureusement, une bouche étourdie d'avoir happé tant d'onctuosité. Tes hanches façonnaient deux bonnes têtes de brioche et le creux de tes reins avait, à toujours, j'imagine, non je m'en souviens, le goût suave des fleurs d'acacia, fragrance entêtante et impérieuse que l'arrondi de tes fesses prolongeait en l'exhalant jusque dans ces exquises fossettes gravées à la pliure de tes cuisses, ces collets de chair tendre, douces et polies qui emprisonnaient souvent des doigts trop hardis. La voûte de tes pieds était musquée, le creux de tes chevilles amer, l'arçon de tes mollets fruité, le revers de tes genoux salés, l'intérieur de tes cuisses minérales et ce qui venait dedans et ce qui venait ensuite et ce qui perlait enfin, une réduction de tout ce qui m'y avait mené. Un fond de toi et de tout l'univers.
Cette lettre d'amour, qui est aussi une lettre de séparation, une lettre intensément érotique, Anna Gavalda, qui est adressée à l'héroïne de La vie en mieux et qu'elle garde dans son sac, preuve qu'elle n'a pas mis 10 ans à la lire. Et la preuve que, pendant toutes ces années, depuis la toute première lettre d'amour que vous aviez publiée et qui avait fait aussi votre premier succès, la poésie est restée pour viatique et il a fallu du temps pour oser.
Là, le sujet de cette histoire, de Mathilde, enfin l'idée, c'était évidemment de dire la force des mots. Or, cette lettre en soi, ça ne pourrait être voilà, qu'une lettre d'amour d'un homme qui se souvient du corps d'une femme et qui, pour s'en souvenir, emploie tout le champ lexical de la gastronomie, pour parler comme les professeurs de français, sauf que cette lettre est tombée entre les mains d'un garçon qui est cuisinier. Et ça que je trouve joli, c'est que va faire ce garçon en plus?
Parce qu'elle a perdu son sac à main.
Voilà, elle a perdu son sac à main.
Et elle ne sait pas s'il aura osé, enfin s'il aura ouvert le sac et s'il aura trouvé la lettre.
Voilà. Et ça que je trouvais merveilleux, c'est qu'est-ce que donc ce garçon qui a un CAP hôtellerie, qui n'a pas l'air très vif comme ça quand elle le rencontre, qu'est-ce que ce garçon peut fantasmer d'elle à la lecture de cette lettre? Puisque en effet, lui, toutes ces choses-là, fèves, amandes mondées, jus des carapaces, enfin tout ça, c'est son quotidien, lui, c'est sa boîte à outils. Et donc pour lui, évidemment, et je pense que cette lettre lui a fait un effet bœuf. Mais je pense vraiment que toute cette nouvelle, donc, qui s'appelle Mathilde, c'est une nouvelle qui dit à quel point les mots peuvent donner envie de faire l'amour. Voilà. Et voilà, cette nouvelle de Mathilde, c'est vraiment, pour moi, c'est un conte de fées érotique pour filles normaliennes. Donc évidemment, comme par définition, les filles normaliennes ne lisent pas du Anna Gavala. Eh bien voilà, c'est une nouvelle... Mais c'est pas grave, je suis très contente de l'avoir écrite. Je trouve que cette lettre est très belle et je trouve que même cette première image de quelqu'un qui parle des paupières comme de l'intérieur des coques de litchis, il faut avoir vu l'intérieur d'une coque de litchi pour vraiment comprendre ce dont il parle, quoi, ce rose iridescent. Et je trouve que c'est très beau. Je trouve qu'il parle très bien d'elle. Et
avoir pris le temps de fermer les paupières aussi pour voir ce qu'on y voit à l'intérieur. Voilà,
exactement, exactement. Et même quand il dit tes ongles voilà, sont comme des amandes ou la pointe de tes seins est comme deux févettes un peu trop crues. Enfin, un peu trop. Je trouve que c'est très beau. C'est très, très beau. Et j'ai beaucoup lu pour arriver jusque-là. Je sais bien à qui je dois tout ça.
Chaque ingrédient.
Voilà, je sais très bien d'où ça vient. Mon métier, c'est en effet d'être très, très, très attentive à tout. Et en étant attentive à tout, j'arrive après à écrire des lettres comme ça. Et je dois à cette lettre, ça peut aller des 101 mots de la cuisine, à des textes de Marie-Rouanet, de Colette. Alors, ouais, par exemple, dans le Dico des mots de la couleur, très bon dictionnaire. Il y a la couleur de muraille, la couleur de Loire, la couleur rompue. D'ailleurs, Van Gogh explique à son frère, pour lui, un gris rompu, ce que je trouve très beau, un gris rompu, c'est beau. Après, il y a les mots obsolètes de Furetière, aussi un très beau dictionnaire, et il y a le mot estafier. L'estafier, c'était un grand valet de pied qui suit un homme à cheval et qui lui tient l'étrier. D'ailleurs, on disait du diable qu'il était l'estafier de Saint-Martin. Et donc, dans Ensemble, c'est tout, Franck, le cuisinier, s'appelle Franck l'estafier à cause de ce mot-là. Et de même, la consolante, quand j'ai écrit la consolante, pour moi, c'était un terme sportif. Enfin, la consolante, c'est après la première manche, la seconde, la belle et la revanche. On joue la consolante, qui est une partie que l'on joue sans points pour le pur plaisir de jouer et de se quitter, justement, sans que les points soient comptés. Et je trouve que c'est un magnifique terme poétique et magnifique terme de vie, quoi. Et donc, voilà, ce livre s'appelait La consolante, puisqu'il racontait ça, un homme qui voulait tout d'un coup vivre sa vie sans plus jamais compter les points. Et là, je vois dans le jargon des cafetiers que la consolante, c'est aussi la dernière tournée et qu'elle s'appelle aussi la déchirante ou le coup de l'étrier. Et je trouve ça magnifique.
La vie en mieux d'Anna Gavalda, 330e titre des éditions Le Dilettante, a été imprimé à 199 999 exemplaires. Il se trouve dans toutes les librairies, comme tous ses autres livres, Ensemble c'est tout, La consolante, L'échappée belle, Billy, Je l'aimais, ou encore Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, publié à la même enseigne. Sans oublier 35 kilos d'espoir, chez Bayard Jeunesse. Sarima Kwa, 24 heures sur 24 sur franceculture.fr, pourrait écouter durant 1000 jours et nuits et télécharger librement le temps d'une année entière. Bel été à vous, à l'écoute de France Culture. Sarima Kwa, Gwen Michel, Jean-Michel Bernot, Pascal Bénard, Arthur Bédouin, Sylvia Favre, Patrick Molinier, Sophie Nolo. Changement de décor dès 20h30 sur France Culture, place au théâtre avec Joël Gaillot.